Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, éditorialiste au Point et au Figaro, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, et Lionel Zinsou, économiste franco-béninois. Nous commencerons avec un sens de la chronologie admirable par le premier tour des élections présidentielles. Je peux déjà vous annoncer que nous continuerons avec le second tour de ces élections présidentielles. Dimanche, le 23 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés en tête du premier tour de ces élections avec respectivement 24,01% et 21,3% des voix. Le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, obtient l'un de ses scores les plus bas à une élection présidentielle, avec 6,36% des voix. Le candidat des Républicains, François Fillon, rassemble 20,01% des suffrages, talonné par Jean-Luc Mélenchon à 19,98%. Nicolas Dupont-Aignan obtient 4,7% des voix. Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, Jean Lassalle, François Asselineau ne passent pas la barre des 2%. L'abstention atteint 22,7% du corps électoral et les votes blancs ont représenté 1,78% des suffrages. Marine Le Pen a salué le résultat historique du Front National. La candidate a fait mieux que Jean-Marie Le Pen, qui en 2002 accédait au second tour face à Jacques Chirac avec 16,86% des voix. Le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, améliore sensiblement son résultat de 2012 après une forte percée dans les sondages en fin de campagne. Et selon un sondage Ipsos Soprasteria, il obtiendrait le meilleur score dans la catégorie des 18-25 ans, soit près de 30%. L'annonce des résultats a été immédiatement suivie par la constitution d'un front républicain contre le Front National. Benoît Hamon était le premier à appeler à voter pour le candidat d'En Marche afin, je cite, de battre le plus fortement et le plus puissamment Marine Le Pen. Dans son allocution, François Fillon a également affirmé qu'il n'y avait, je cite, pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite et appelé ses électeurs à voter Emmanuel Macron. Il a été rapidement suivi par plusieurs figures de son parti. À l'heure où nous enregistrons cette émission, Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de consigne vote à ses électeurs, ni d'ailleurs Jean Lassalle, ni Philippe Poutou. Le candidat de la France Insoumise a affirmé n'avoir reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter sa candidature pour s'exprimer à leur place. Il a décidé de s'en remettre à ses militants via une consultation lancée sur Internet et qui doit se poursuivre jusqu'à mardi prochain. Alors que selon les sondages, 17 à 19% de ses électeurs pourraient se reporter sur Marine Le Pen, la consultation exclut cette possibilité, proposant l'abstention, le vote blanc ou le vote en faveur du candidat d'En Marche. Face aux critiques sur l'absence de consigne de Jean-Luc Mélenchon, le porte-parole de la France Insoumise a réaffirmé qu'aucune voix ne doit aller au Front National. Sur cette question, Nicole Niesotto.
Parmi les leçons que l'on peut tirer du premier tour, je crois qu'il y en a une qui est assez incontestable, c'est la crise du système bipartisan, l'espèce de bérésina politique pour les partis traditionnels de gouvernement. Donc je crois que c'est vrai, c'est absolument remarqué par tout le monde, mais moi je voudrais dire une chose, c'est que d'une part ce dégagisme n'est pas simplement une crise institutionnelle, c'est l'expression d'une vitalité quand même assez inattendue de la société française. C'est-à-dire, on dit beaucoup depuis des années que la société française est sclérosée, hostile au changement, absolument accrochée comme une huître sur son rocher à ses privilèges, au maintien du statu quo à tout prix. Or, en fait, on s'aperçoit que les électeurs ont été, politiquement en tout cas, révolutionnaires. D'une part, ils ont dégagé les partis de gouvernement. Je vous rappelle qu'ensemble, le Parti Socialiste et les Républicains font 25,8% des votes, donc à peine un quart du corps électoral, alors que les extrêmes, M. Mélenchon et Mme Le Pen, dépassent les 40%. Donc là, il y a vraiment une révolution politique qui a été voulue par les électeurs. Et deuxièmement, au sein de ces partis traditionnels, les électeurs ont dégagé les vieux classiques, Sarkozy, Fillon, Juppé pendant les primaires, Hollande, Bartholone, Le Foll également de l'autre. Autrement dit, on a une nouvelle génération de dirigeants qui va forcément apparaître. Et je dois dire d'ailleurs qu'un des clivages en France entre le peuple et les élites, et il faut le nuancer, c'est plutôt un peuple contre les vieilles élites. Ce qui est en cause, c'est la reproduction, le maintien des vieilles élites politiques au pouvoir. Mais en tout cas, la volonté de changement ici est manifeste, et elle doit nous obliger à nuancer un peu cet adjectif de sclérosé que l'on met systématiquement en face de la société française. Deuxième point, le renouvellement politique n'est pas également incarné par Madame Le Pen et Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a une vraie différence entre les deux. Alors c'est peut-être tout à fait évident, mais ça mérite quand même d'être dit. Marine Le Pen ne renouvelle rien du tout. Le Front National est un vieux parti, non pas de gouvernement, mais un vieux parti d'opposition de 35 ans. Il a été fondé en 72. Il véhicule de très vieilles idéologies séculaires de racisme, de nationalisme, de populisme et de xénophobie. Alors, il a certes adapté au contexte actuel son discours souverainiste en devenant anti-européen et anti-mondialisation, mais il n'y a strictement rien de nouveau sous le soleil de Madame Le Pen. S'il y a un renouvellement du populisme en France, c'est du côté de Mélenchon, c'est du côté de l'extrême-gauche qu'il faut aller le trouver, la xénophobie mise à part. Autrement dit, si le dégagisme est vraiment la dynamique qui a inspiré les électeurs français, logiquement, Madame Le Pen devrait dégager également au deuxième tour et laisser la place en 2022 à Marion Maréchal Le Pen. Mais en tout cas, il y a une fausse identité entre le renouvellement incarné par Madame Le Pen et par Emmanuel Macron vis-à-vis des partis traditionnels. Et pour synthétiser un peu sur Marine Le Pen, d'abord, elle part en position relativement amoindrie. Les sondages la donnaient première au premier tour, elle est arrivée deuxième. Les sondages lui donnaient un score entre 24-25, elle est arrivée à 21. Donc ça, déjà, c'est une mauvaise surprise pour elle, une bonne surprise pour moi. Deuxièmement, il y a un écart de plus d'un million de voix entre elle et Emmanuel Macron. Elle a des réserves de voix très faibles, d'après les sondages. Elle a une réserve potentielle de voix de 3,5 millions, alors qu'Emmanuel Macron a potentiellement une réserve de voix de 10 millions. Son image reste extrêmement négative dans tous les sondages. La personne de Madame Le Pen fait peur à 55% des électeurs. Et quant au thème essentiel de sa campagne, qui est à dire la sortie de l'Europe et de l'euro reste populaire en France à 85%. Donc logiquement, Madame Le Pen est apparue au premier tour affaiblie par rapport à ce qu'on lui donnait, à la dynamique dont on la créditait pendant la campagne. Et logiquement, elle devrait être battue. Je termine en faisant une transition sur le deuxième tour. Il reste simplement trois inconnus. Ce que Gilles Finchelthaï appelle la victoire par inadvertance, c'est-à-dire un taux d'abstention record qui inverserait les chiffres que j'ai donnés, notamment sur les réserves de voix. Deuxièmement, la mobilisation des abstentionnistes du premier tour, des vrais abstentionnistes, les 22% qui, à chaque élection présidentielle, ne vont pas voter. Et troisièmement, une mauvaise campagne d'Emmanuel Macron. Mais il faudrait les trois ensemble, ces trois conditions pour un succès de Madame Le Pen serait cumulatif. Or, on n'est pas là.
Nicolas Mavres.
D'abord, je partage l'idée que il y a des choses positives dans ce scrutin. La première étant la participation. On attendait, on indiquait des Français extrêmement désabusés, amers, avec beaucoup de désillusions face à la politique. Ils ont compris l'importance de l'enjeu et ils sont allés voter. Ensuite, c'est vrai que ce scrutin a quand même des traits communs avec ce qui s'est passé au Royaume-Uni, avec le référendum sur le Brexit et avec la présidentielle américaine. C'est ce qu'on appelle la disruption, c'est-à-dire des ruptures et des chocs absolument majeurs avec ce qui existait. Il y a quatre chocs. D'abord, Emmanuel Macron, qui sort en tête du premier tour alors qu'il s'est lancé dans l'aventure il y a un peu plus d'un an et qu'il ne s'est jamais présenté à aucune élection. Donc ça, c'est un élément très important. Le Front National, ensuite, qui accède au second tour pas du tout sous la forme d'une surprise, avec un ancrage extrêmement puissant et quand même un résultat 7,7 millions de votes. Et j'y reviendrai, le fait que Madame Le Pen est en tête dans 19 000 des 36 000 communes françaises. Ensuite, la disparition des deux partis dits de gouvernement, ça a été rappelé par Nicole Niesoto. Et enfin, une balance entre réformistes et populistes qui est quand même à 55% à l'avantage des populistes. Donc les candidats qui étaient hostiles à l'économie de marché, à l'entreprise, à l'Europe et à l'ouverture du pays. Donc ça, ce sont les éléments de... Les éléments de disruption. Et derrière, ce qui est frappant, et ce qui finalement va être le. C'est ce que laisse ce deuxième tour, hein, c'est la France des passions tristes contre la France d'un espoir de changement et de renouveau. C'est un pays qui est extrêmement fracturé et divisé. C'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé dans les années 80-90, de l'échec de la France à s'adapter aux grandes révolutions qui se sont succédées depuis la fin du XXe siècle, la mondialisation, la révolution numérique, la remontée des risques stratégiques. Et c'est vrai que les cartes sont extrêmement spectaculaires. On a une France éclatée et divisée. Et une des traductions de cette France éclatée et divisée, qu'on avait déjà sentie avec des effets de bunkérisation dans tous les principaux candidats, c'est précisément la difficulté à faire émerger ce qui avait été le Front républicain de 2002. On constate aujourd'hui que d'abord le Front républicain est difficile quand les partis dits républicains sont en voie de disparition, et qu'ensuite, dans les différents camps, on n'a pas du tout l'atmosphère de rassemblement de 2002 contre le Front National, et qu'on a au sein de ces camps, en fait, soit des consignes ambiguës, pour le moins c'est le cas de la France insoumise, soit des divisions, ce qui est le cas notamment au sein des Républicains, même si les trois principaux leaders, c'est-à-dire François Fillon qui était le candidat, Alain Juppé qui était le finaliste de la primaire, et Nicolas Sarkozy qui est l'ancien président de la République et l'ancien président des Républicains, ont tous les trois clairement appelé à voter pour Emmanuel Macron.
Lionel Zinsou.
Oui, moi je suis pas sûr que je conduirais l'analyse en termes de choc, de disruption et de fracture, pour reprendre trois mots que je trouve un petit peu fin. Je suis pas sûr non plus que ce soit la France des passions tristes. C'est très beau, mais Madame Le Pen a dit que elle trouvait la campagne assez joyeuse. La campagne de second tour. Alors, joyeuse parce que je pense qu'elle sent beaucoup d'enthousiasme et qu'elle trouve qu'au fond, ça lui donne des chances et ça nourrit cet enthousiasme. Mais je ne suis pas sûr que les passions soient si tristes. La fracture de la carte française, ce n'est pas exactement une fracture. Vous partez du centre de votre ville moyenne. Tout à fait au centre, les gens votent Macron. Vous faites 800 mètres, vous passez par un quartier légèrement périurbain. Les gens votent Mélenchon. Vous arrivez dans la campagne qui l'entoure et vous avez une légère surpondération du Front National. Et puis c'est comme ça dans toutes les campagnes de France, dans toutes les villes moyennes de France. C'est pas une France coupée en deux, fracturée avec une zone libre et puis une zone occupée par le Front National. C'est pas, vous franchissez pas sur cette diagonale Le Havre-Marseille, vous ne franchissez pas une frontière, et puis il y a deux France de part et d'autre, beaucoup moins qu'en Grande-Bretagne notamment, beaucoup moins. Donc c'est quelque chose qui est quand même plus homogène, avec évidemment une sociologie particulière des quartiers, des niveaux de revenus différents, des niveaux d'éducation différents, mais je ne décrirais pas ça en termes de fracture. C'est un tissu, c'est une carte de géographie, je ne pense pas que nous soyons dans une situation aussi brutale. La deuxième chose, c'est que c'est assez classique d'exprimer dans les premiers tours des élections une protestation. Ça, c'est pas sans précédent. On exprime une protestation. Là, effectivement, ça fait 55% de gens assez en colère. Mais le deuxième tour ne sera pas forcément l'expression d'une colère. Donc, on est dans un schéma classique. On n'est pas tout d'un coup dans un basculement où toutes les élections présidentielles antérieures auraient été iréniques, harmonieuses. Au premier tour, non, c'est classique que les gens en colère s'expriment par le vote. Donc je ne pense pas qu'on soit dans une rupture aussi, aussi radicale. L'autre chose, c'est qu'il faudra peut-être quand même qu'on fasse à un moment le bilan des primaires. Je ne sais pas si les gens ne regrettent pas les primaires. On va en parler avec Thierry Pech, parce que je crois que c'est un prophète des primaires. Mais moi, je trouve que ça ne condamne pas les primaires que d'avoir vu les candidats, tous ceux qui sont passés par les primaires, échouer. C'est vrai que M. Jadot, ça ne lui a pas porté chance, mais ça a servi à éliminer Mme Duflot. Et même chose pour M. Fillon et pour M. Benoît Hamon. Mais moi, une chose qui me frappe, c'est que on n'a pas pris la précaution au moment de ces primaires, donc on doit pouvoir, dans les prochaines élections, avoir un meilleur usage des primaires. On n'a pas pris la précaution d'avoir un programme établi, une base commune, ni chez les Républicains, ni chez les socialistes. Si bien que le programme qui est devenu le programme de campagne du candidat des Républicains et le programme de campagne du candidat des socialistes était le programme de la primaire, sans qu'il y ait vraiment une convention, on s'asseye. Il y a eu des cérémonies d'investiture, mais elles étaient oiseuses. Elles ne servaient à rien, puisqu'il n'y a pas, c'était pas un moment de rassemblement où on cherchait à faire une plateforme commune et à rassembler son camp. Donc le programme des partis n'était pas antérieur à la primaire, il aurait pu l'être, ou postérieur à la primaire, dans un moment où on a un programme commun à défendre. Si bien que les camps ne se sont pas rassemblés, on est resté sur des positions qui étaient des positions très exacerbées d'hostilité entre candidats, et on s'est autodétruit à travers les primaires. Mais on n'est pas condamné à le faire. C'est une question d'administration par les partis de ces primaires. Alors, que restera-t-il de ces partis? Je pense que ce sera pour des institutions nouvelles, en fait, que cette question se posera demain, parce que clairement, là, les partis ont éclaté, ils se sont des astres morts, et ça, c'est un vrai choc, ça, c'est une vraie disruption. Elle est intérieure à la classe politique, beaucoup plus qu'à la carte de France, et je pense que c'est une question pour les futurs dirigeants des futurs partis, mais aujourd'hui, nous ne connaissons rien des partis qui vont s'imposer dans les semaines qui viennent.
Thierry Pech.
Je crois qu'on a vécu le premier moment d'explicitation d'un processus qui est maintenant lancé depuis deux ans, qui est un processus de recomposition politique. On l'a beaucoup annoncé. Il commence à s'écrire dans l'histoire officielle, d'une certaine façon. Il est très difficile d'ailleurs d'en tirer des conclusions immédiates, parce qu'une des grandes questions que pose ce scrutin, c'est où passera le clivage central du monde politique de demain. S'il ne passe plus entre les partis dont Lionel Zinsou vient de dire à juste titre qu'il semblait être mortellement atteint, les grands partis de gouvernement de centre-droite et de centre-gauche, où passe-t-il? Ça, c'est la question qui reste en toile de fond de toutes ces discussions pour moi. Alors, quelques commentaires, puisque Lionel m'y invite, sur les primaires et plus largement sur les raisons qui ont conduit les deux grands partis de gouvernement, le PS et les Républicains, à cet effondrement. Je pense que si ces partis se sont effondrés, c'est parce qu'ils sont dans une grave crise identitaire. Ils ne savent plus qui ils sont. On peut faire des primaires qui fonctionnent quand on sait où sont les frontières de la famille. C'est pour ça que Lionel a raison de dire qu'il faudrait se mettre d'accord sur une plateforme. Mais le simple fait qu'on doive dire qu'il faudrait se mettre d'accord sur une plateforme signifie que ce n'est pas évident. En 2012, c'était relativement évident pour le Parti Socialiste. Il y avait une famille qui s'appelait les Socialistes et on a tranché une querelle de famille, une querelle de pur leadership avec cette procédure de la primaire. Mais la primaire ne sert qu'à ça. C'est la même chose d'ailleurs aux États-Unis, chez les Républicains et les Démocrates. Quand le périmètre de la famille n'est pas clair, la primaire est dangereuse. Et ce périmètre n'étant pas clair, ces formations traversant une grave crise identitaire, la primaire a accéléré un processus au terme duquel ils ont été tous les deux aspirés par le champ gravitationnel des radicalités extrêmes qui sont à leur droite pour les Républicains, à leur gauche pour les socialistes. Ce qui est commun à ces deux primaires, c'est d'avoir choisi, dans un moment où il aurait fallu choisir des personnages de consensus, des personnages qui, au contraire, divisaient. Ça a été la surprise chez les Républicains, une primaire massive, hein, 4 millions de participants, Fillon plutôt que Juppé, et Benoît Hamon plutôt que Manuel Valls, ce n'était pas d'ailleurs un candidat très consensualiste, mais il l'était tout de même davantage. Et donc ces deux partis se sont effondrés sur eux-mêmes en se laissant aspirer par des positions qui n'étaient pas les positions de leur centre de gravité naturel. Les primaires n'ont rien à voir avec tout ça, elles ont juste accéléré le mouvement. Mais le problème fondamental, c'est pas les primaires, le problème fondamental, c'est qui sont ces partis? Que veulent-ils? Quel est le périmètre de la famille? Donc ça, c'est le premier point. Sur Marine Le Pen, Moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui semblaient soulagés au soir du premier tour en disant « Ah, on nous a dit qu'elle ferait 30%, elle fait 21,3%, elle totalise 7 millions, c'est 7 500 000 voix, 7 600 000 voix. 7 700 000 voix, c'est moins que ce qu'elle a fait au régional, mais c'est son record au présidentiel. Je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a aucune raison d'être soulagé. C'est son record présidentiel. Quand on regarde 2012-2007 était une parenthèse de ce point de vue-là, de 2017, la courbe est ascendante. Mais surtout, elle arrive première dans 216 circonscriptions électorales et elle passe les 12,5% des inscrits, qui est le seuil de qualification pour les législatives, et on a rendez-vous avec les législatives bientôt, dans plus de 400 circonscriptions. Donc, on ne peut pas être complètement tranquille. Hein, même si elle a fait une campagne qui ne lui permet pas d'espérer croître au-delà de son périmètre naturel, au-delà du cercle des gens qui votent pour elle, si elle a agité des thèmes qui divisent son propre électorat, comme l'euro. L'euro est un divise. C'est le seul sujet qui divise son électorat. C'est un électorat sinon qui est très très cohésif, qui est très cohérent. Et là, même les électeurs frontistes disent bon, là on n'est pas sûr. Bon, un mot sur Mélenchon-Macron rapidement. Pour moi, Mélenchon est vraiment la grande énigme et la grande révélation de ce scrutin. Je pense que ça mériterait qu'on s'y arrête 5 minutes. Et moi, je n'ai jamais fait partie des gens qui additionnent les voix des deux extrêmes, parce que je pense qu'ils n'ont rien à voir, que sur des quantités de questions, sur l'écologie, sur la famille, sur l'immigration, sur l'islam, le mouvement des Insoumis n'a absolument rien en commun avec le Front National. Mais il y a quelque chose auquel il faut s'arrêter dans ce mouvement, c'est qu'il a fédéré une partie de la jeunesse qualifiée désœuvrée. Ceux qu'on appelle les intellos précaires, ceux que Mannheim appelait les intellectuels désencastrés dans les années 30, ceux qui ont fait quelques révolutions dans l'histoire, qui sont qualifiés et souvent sans office. Je crois qu'il faut s'interroger sur l'avenir de ce mouvement. S'il n'est pas complètement lié à la personne de Jean-Luc Mélenchon, c'est un mouvement qui a un avenir. Sur Emmanuel Macron, la phrase de Gandhi, j'ai toujours dit à ce micro, prenez-le au sérieux, vous n'avez pas pris au sérieux, ça se voit maintenant. Gandhi disait, à propos de ses adversaires, au début ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, ensuite ils vous combattent, et à la fin, vous gagnez. Et je crois que tous les adversaires d'Emmanuel Macron ont commis une grave erreur pour eux-mêmes, c'est de ne pas l'avoir pris au sérieux, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, puisque je vois que Philippe me fait des signes pour que je m'interrompe.
Je fais désespérer. Non, je pense que vous avez raison. Il faut s'arrêter sur l'exploit d'Emmanuel Macron et sur l'exploit de Jean-Luc Mélenchon, et sur le fait que l'un et l'autre ont ramené à la politique, et sans doute Mélenchon encore plus que Macron, mais que Macron l'ait beaucoup fait, une classe d'âge qui s'en détournait de manière presque active, qui ne s'en détournait pas seulement passivement, mais qui pensait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique. La question est en effet, qu'est-ce que l'un et l'autre vont en faire? Venons-en justement à ce second tour. Le leader d'En Marche donc est arrivé en tête avec 24,1% des voix. Il a remercié François Fillon et Benoît Hamon d'avoir appelé à voter pour lui. Et il a exprimé son ambition d'ouvrir une nouvelle page de notre vie politique par la construction rapide d'une majorité de gouvernement. Il s'est défini comme, je cite, le futur président des patriotes face aux nationalistes. La présidente du Front National, forte elle de 21,3% des suffrages, nous l'avons rappelé, s'est présentée comme le rempart contre les délocalisations, la concurrence internationale déloyale, l'immigration de masse, la libre circulation des terroristes et le règne de l'argent roi. À France 2, Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne modifierait pas son programme électoral pour rassembler davantage d'électeurs, mais qu'il consacrerait, je le cite, les prochains jours à l'expliquer et à aller au contact des Français. Il a réaffirmé le caractère résolument européen de sa démarche, qu'il a opposée au projet de Marine Le Pen qualifié de brutal et haineux. Il a rejeté les critiques sur son attitude jugée trop optimiste face à un Front National présent au second tour, et il a accusé ses détracteurs, je cite, « issus du système des vieux partis politiques », d'avoir permis la montée du parti d'extrême droite au cours des dernières années. Le candidat est revenu sur la controverse qui a suivi la fête organisée par lui au soir du premier tour à la brasserie La Rotonde. Il l'a qualifié de « moment de cœur » avec son équipe et affirmé qu'il n'avait, je cite, « pas de leçons à recevoir du petit milieu parisien ». À TF1, la candidate du Front National a qualifié le programme d'Emmanuel Macron de fratricide. Elle s'est présentée comme la candidate du peuple face aux candidats, je cite, des centres-villes, des gagnants de la mondialisation et de l'oligarchie. Elle s'est posée comme un recours pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qu'elle a appelé à ne pas voter pour la France soumise. La semaine a été marquée par la visite des deux candidats à l'usine Whirlpool d'Amiens, où 600 emplois sont menacés par la délocalisation en Pologne de la production de sèche-linge. Marine Le Pen s'est rendue rendu sur le site pour s'adresser aux ouvriers en grève, alors qu'Emmanuel Macron rencontrait au même moment l'intersyndicale à la Chambre de commerce d'Amiens. La candidate du Front National a pris l'engagement de sauver le site et de se battre contre des délocalisations scandaleuses. Emmanuel Macron s'est rendu à l'usine quelques heures plus tard, dans une atmosphère tendue, et s'est engagé à chercher un repreneur à même de préserver le plus d'emplois possible. Les derniers sondages donnent Emmanuel Macron vainqueur de l'élection avec 60,5% des voix face à Marine Le Pen, créditée de 39,5% des suffrages. Le taux d'abstention sera un enjeu majeur du scrutin, alors que Jean-Luc Mélenchon a refusé de donner une consigne de vote et que de nombreux électeurs déçus ont annoncé leur refus de se rendre dans l'isoloir. Sur cette question, Lionel Zinsou.
Oui, d'abord, je crois qu'il faudrait faire hommage aux instituts d'études de l'opinion. Ce que nous disions à cette antenne il y a quelques semaines, que tout était bien opaque pour le premier tour, et les gens ont aujourd'hui très peur pour le second tour, mais les sondages ne s'étaient pas trompés, et quand le résultat a été acquis, on s'est aperçu que cela faisait 10 semaines, de façon constante, depuis que Monsieur Macron n'était plus descendu en dessous de 23%, depuis les apports de François Bayrou, depuis les difficultés de François Fillon. Je suis aperçu qu'en réalité, il y avait eu une récurrence constante dans l'annonce d'un résultat qui s'est matérialisé. Est-ce qu'il y a des raisons de douter que le second tour sera si dangereux, que l'abstention, la victoire par mégarde est possible, que la météo va décider dans ce long week-end du 7-8 mai de l'élection, ou est-ce qu'au fond, on est devant des sondages qui vont sûrement évoluer en dessous d'une fourchette 60-40, qui est un peu extrême, mais qui vont quand même assurer une des meilleures élections de la Ve République pour Emmanuel Macron. Moi, je crois qu'il n'y a pas lieu de douter des sondages de second tour, comme il n'y avait pas lieu d'être dans une angoisse sur les résultats du premier tour. Et il faut rendre cet hommage au fait que les sondages français des présidentielles ont toujours été meilleurs que les sondages anglo-saxons, donc c'est à nouveau quelque chose de fort. Et tous les éléments du sismographe, hein, le sismographe que représentent les sondages, il était très précis. Oui, il y a eu une remontée de François Fillon qui n'est qu'à 1,2 de Marine Le Pen. Oui, on a senti dans les 15 derniers jours la montée irrésistible de Mélenchon. Enfin, en réalité, l'instrument de mesure a été fidèle au premier tour, il va être fidèle au second tour. Parce que quels que soient les événements, sauf événements majeurs du type attentat terroriste créant un trauma considérable, et ça c'est un vrai danger, il ne reste que 5 jours, il ne reste que très peu d'heures ouvrables pour que les Français changent et pour que les candidats fassent des gestes essentiels en dehors du grand débat de mercredi. Peut y avoir un événement complètement exogène, mais sinon, la robustesse du vote du second tour semble acquise, parce que ce ne sont pas des événements de campagne. C'est bien d'aller tôt matin à Rungis, puis tôt matin avec les marins-pêcheurs, mais la vérité, c'est que les gens votent en fonction de paramètres démographiques très installés, de structure de la famille dans leur région, dans leur quartier, de taux d'emploi, de nombre de familles monoparentales. Et un grand démographe, Hervé Lebrun, a été capable d'envoyer la carte exacte du vote Marine Le Pen-Macron à quelques journalistes quelques jours avant le scrutin de premier tour, et on pourrait faire la même chose pour le scrutin de second tour. Pourquoi ? Parce que ce sont des déterminants très profonds et pas du tout anecdotiques et pas du tout conjoncturels. Deuxième remarque, prenons un tout petit peu de champ par rapport au débat franco-français. La question sur l'Europe est quand même très central. Vous avez dit que l'euro était un facteur de division au sein de l'électorat frontiste. Heureusement, il y a quand même un débat fondamental sur l'Europe. Il y a une constance extraordinaire d'Emmanuel Macron. On vous distribue à l'entrée de ces meetings des drapeaux européens et français. Et il y a un peuple qui se lève chaque fois qu'il évoque l'Europe et qui trépigne de joie. C'est un hymne à la joie dans les meetings d'Emmanuel Macron. Et l'inverse, et là c'est quand même une fracture très 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 importante, très très intéressante, mais clairement la France est du côté d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Mais prenons un tout petit peu de champ, l'Europe est nécessaire au monde. Or, retirer la France de l'Europe, ça va avoir tout ce qu'on a dit comme conséquence sur les épargnants, ça va ruiner les patrimoines, augmenter les taux d'intérêt, rendre le service de la dette absolument insupportable, une dette en euros à des taux très élevés, enfin, le chaos, bon, tous ces arguments sont vrais, mais n'oublions pas quelque chose qui est quand même un devoir vis-à-vis du monde entier, l'Europe... C'est le premier bailleur d'aide au monde, donc c'est un facteur d'équilibre du monde. L'Europe, c'est le premier investisseur en dehors de ses frontières, c'est la première puissance commerciale, c'est la première puissance économique, loin devant les États-Unis. C'est donc vraiment le centre du monde, c'est le centre des nœuds, le nœud des grands flux financiers, et puis c'est l'incarnation de valeurs que les autres puissances impériales, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, n'incarnent. Et prendre la responsabilité de casser l'Europe, c'est quand même un vrai, vrai débat, parce que c'est et retirer la France du monde, comme si on pouvait non seulement faire un référendum pour sortir d'Europe, mais on peut aussi sortir du monde, c'est très grave pour la place de la France dans l'histoire mondiale. L'Europe est nécessaire, et la France est nécessaire à l'Europe.
Nicolas Bavrez.
Quelques remarques pour nuancer un peu le propos. Il fait pas de doute que Emmanuel Macron est le grand favori de ce second tour, mais je voudrais quand même souligner que récemment, tous ceux qui ont pensé qu'ils avaient élection gagnée ont connu de graves déconvenues, et pas seulement en France. On peut penser à David Cameron, on peut penser à Hillary Clinton, on peut penser également à Monsieur Renzi en Italie. Donc, et notamment, tous ceux qui ont pensé qu'ils avaient élection gagnée et qui ont arrêté de faire campagne ou qui ont fait de mauvaises campagnes ont été sanctionnés. La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que le score... Évidemment, le résultat sera déterminant. Savoir qui est l'élu, c'est effectivement le premier but de cette élection. Mais le score sera aussi important. Il sera important pour la capacité à construire une majorité derrière. Et s'il n'y a pas de majorité parlementaire, eh bien, il y aura une instabilité politique qui va être très, très difficile à maîtriser. Il est important aussi pour la place de la France dans l'Europe, dont on vient de parler, et également... pour savoir si cette élection peut représenter une sorte de coup d'arrêt à la poussée populiste. Ce qui serait intéressant, paradoxal et positif pour la France, c'est qu'après, finalement, l'année 2016, où on a eu l'embardée dans le monde anglo-saxon avec le Brexit et Donald Trump, ce soit la vieille Europe qui donne, qui fasse barrage à cette montée des populismes. On a eu l'élection néerlandaise. On a l'élection française, on aura peut-être, on va voir ce qui va se passer en Allemagne, et puis l'Italie viendra en 2018. Mais donc, le score pour ça est extrêmement important, au-delà du résultat qui, naturellement, l'est encore plus. Troisième chose, Thierry Pech se demandait qu'est-ce qui remplace ce clivage droite-gauche, et Lionel Zinsou a répondu. C'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu au Royaume-Uni, ce qu'on a vu aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le clivage, il est entre réformistes et démagogues. Il est entre l'ouverture et la fermeture autour des frontières nationales. Et nous savons déjà, alors comment exactement les forces vont s'organiser autour, nous ne le savons pas, mais nous connaissons avec certitude ce clivage, et c'est effectivement la clé, l'enjeu, la structure de cette élection du second tour. Je voudrais rappeler aussi et souligner la différence avec le climat de 2002, quand même en 2002, les manifestations, les appels étaient à peu près unanimes à faire échec à Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, on a des gens qui manifestent...
Pardon Nicolas, mais l'unanimité n'était-elle pas due au fait qu'il n'y avait absolument aucun danger d'aucune sorte, et que dans ces cas-là, le Front républicain peut y aller et que chacun peut faire des grands discours...
Oui,
et
mais je note qu'aujourd'hui, on explique qu'il n'y a pas de danger d'aucune sorte, mais que la réaction est très très différente et qu'on a aussi... je l'ai rappelé, des forces politiques, mais aussi quelques manifestations en faveur du Nini, ce qui est tout à fait différent de l'atmosphère d'un Front républicain. Donc tout ça pour dire que Vous l'avez dit, Emmanuel Macron insiste sur le fait qu'il n'a de leçons à recevoir de personne. C'est sûrement vrai, mais peut-être peut-on lui donner un certain nombre de conseils très modestes et prudents. D'abord, compte tenu de la difficulté de la situation du pays et de la fonction qu'il aspire à occuper, je pense qu'il faut qu'il soit exemplaire dans son comportement personnel. Ensuite, il faut qu'il assume ce renouveau, qu'il assume la réforme et qu'il réponde quand même à ce que, puisque finalement Lionel Zinsou a accepté de prononcer le mot de fracture, nous avons une nation qui est en miettes. Et donc, s'il veut être le président de tout, s'il veut être le président de tous les Français, ce qui est fondamental pour pouvoir réformer le pays, il faut qu'il arrive à s'adresser à cette France éparse et à essayer de donner les lignes de ce que pourrait être la refondation de la nation.
Et qu'il ne confonde pas Stéphane Bern et Jeanne d'Arc. Nicole Nézotto.
Oui, moi je pense aussi qu'Emmanuel Macron sera notre président de la République, mais j'aimerais aussi partager le total optimisme de Lionel Zinsou, et malgré tout je n'y arrive pas. D'abord un mot sur le Front républicain. Je pense qu'in fine le Front républicain marchera pour une seule raison, c'est qu'il n'y a pas en face de front anti-républicain. Il n'y a pas de front populiste. Et là je suis complètement d'accord avec Thierry, les électeurs de Mélenchon ne sont pas les mêmes que les électeurs du Front national. Et Dieu merci, d'une certaine façon, c'est ce qui empêche effectivement ce front anti-républicain. Mais pour le reste, le front républicain est quand même très très affaibli. En 2002, Chirac avait 82,2% des voix. En 2014, au régional, le meilleur, Xavier Bertrand, a eu 57,5% des voix dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et aujourd'hui, les sondages donnent à M. Macron une fourchette entre 58 et 63% des voix. Deuxièmement, la mobilisation dans la rue n'existe pas. Ils n'étaient même pas 1000 à La République le soir du premier tour. Et alors qu'en 2002, il y avait plus de 300 000 personnes pendant plusieurs jours qui protestaient contre une éventuelle victoire de Jean-Marie Le Pen. Et enfin, troisième point, le taux d'abstention, c'est le grand inconnu, peut être relativement fort. Et pour Emmanuel Macron, évidemment, le fait de gagner à plus de 60% ou de gagner à uniquement 55% aura des implications très très grandes pour sa légitimité nationale et surtout pour sa légitimité pour changer l'Europe comme il le veut. Donc oui, il faut être optimiste, mais je crois que les difficultés sont quand même totalement réelles. Deuxième point sur l'Europe. C'est vrai que, pour la première fois, je dirais, l'Europe a été et va être au cœur du débat présidentiel, ce qui n'était pas le cas traditionnellement dans ce pays, ce qui n'était même pas le cas au début. Rappelez-vous, au début, c'était les thèmes de l'insécurité, le traitement de l'immigration, les thèmes économiques et sociaux traditionnels qui étaient devant. Là, on a vraiment un thème européen, un clivage européen entre les deux candidats. Alors, premièrement, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que sur les 11 candidats, on en avait 8 d'anti-européens. Et ça, je crois qu'il faut quand même pas l'oublier. Et sur les 3 pro-européens, il y en a qu'un finalement, Monsieur Macron, qui est en faveur de l'Europe telle qu'on l'a construite aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, il faut tirer les leçons de ça. Jean-Claude Juncker s'est félicité de la victoire d'Emmanuel Macron, mais il ferait mieux de s'inquiéter de l'image totalement négative, repoussoire, qu'a l'Europe dans le pays fondateur de la construction européenne qui est la France. C'est un échec patent de la Commission européenne. C'est pas simplement un échec de communication, c'est un échec d'efficacité de la politique européenne. Et j'en viens à mon troisième point. Emmanuel Macron doit en tirer les leçons. Alors, il a tenu un discours, évidemment, avec des drapeaux très européens, très même fédéral sur certains points, en proposant, par exemple, un budget de la zone euro. Mais les Français, ça leur est complètement égal, le budget de la zone euro. Ça, vraiment, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Ce que veulent les Français, c'est une Europe sociale, une Europe qui redistribue de la richesse ou en tout cas qui atténue les effets de la mondialisation. Ce qu'ils veulent, c'est une Europe des perdants. Ce qu'ils veulent, c'est une Europe qui s'occupe des perdants. Et je crois qu'Emmanuel Macron a vraiment intérêt à prendre à son compte cette Europe de la redistribution, cette Europe qui atténue les effets négatifs de la mondialisation. C'est pas la peine de nier que la mondialisation crée des inégalités. Elle les crée. Mais là où l'Europe peut être efficace, c'est justement en atténuant les effets. Et si Emmanuel Macron continue sur un discours, pardonnez-moi Lionel, mais quand même très technocratique sur l'avenir de l'Europe, alors il va accentuer la fracture au sein de la société.
Thierry Pêche.
Je voudrais vous lire les propos de quelqu'un qui s'exprimait entre les deux tours de 2002 à propos du choix Front National ou pas. Il disait « Quelle conscience de gauche peut accepter de compter sur le voisin pour sauvegarder l'essentiel parce que l'effort lui paraît indigne de soi ? Ne pas faire son devoir républicain en raison de la nausée que nous donne le moyen d'action, c'est prendre un risque collectif sans commune mesure avec l'inconvénient individuel. » C'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimait de cette façon. Je tenais à lui rappeler l'excellence, vraiment l'excellence, des propos qu'il proférait alors avec une efficacité tout à fait significative. Je pense que le choix n'est pas très différent aujourd'hui. Je pense que si on demandait à Jean-Luc Mélenchon s'il préfère Jacques Chirac ou Emmanuel Macron, il dirait probablement Emmanuel Macron.
Non, bon. Il dirait Jacques Chirac.
Oui, eh bien, j'en suis pas sûr. En tout cas, on est dans un moment existentialiste. Vous savez, Sartre disait, nous sommes condamnés à la liberté, ne pas choisir, c'est choisir. Et de la même façon, au second tour, dans un scrutin majoritaire à deux tours, il y a deux candidats, il n'y en a pas trois, il n'y a pas une troisième option, il n'y en a que deux. Et ne pas choisir, c'est favoriser l'une des deux. En l'occurrence, c'est probablement favoriser Marine Le Pen. Alors, s'il y a défaut d'avoir des raisons morales, éthiques, républicaines, de voter pour Emmanuel Macron le 7 mai, on cherche des raisons plus cyniques, plus matérielles. Je pense que l'intérêt de tous les partis qui veulent survivre à ce qui est en train de se passer, c'est que Marine Le Pen soit le plus bas possible. Si elle est haut, au deuxième tour, elle sera demain, ou elle sera en situation de devenir demain, la force d'alternance. J'ai rappelé le nombre de circonscriptions où le Front National est susceptible de se maintenir au deuxième tour. Il faut que chacun ait bien conscience que le Front National, le 18 juin prochain, je ne crois pas me tromper sur les dates, peut être la première force d'alternance à une majorité parlementaire dont les contours seront à préciser. Le Front National peut prétendre aujourd'hui à plus de 100 députés, je pense. Bon. Et donc, les forces politiques qui veulent survivre à ce qui est en train de se passer ont tout intérêt à ce que le Front National soit bas et à faire tout leur possible pour qu'il soit sévèrement battu. Sur Emmanuel Macron, un mot. Le portrait d'Emmanuel Macron en candidat des métropoles, des bobos, des CSP+, je veux dire, c'est le flux continu des commentaires politiques. La réalité de ce qu'on observe dans les enquêtes, c'est pas tout à fait ça. C'est que c'est un candidat qui a une égale audience à peu près dans tous les segments de la société et tous les territoires. C'est pas du tout le portrait qu'on fait habituellement. Bien sûr qu'il est relativement fort chez les qualifiés, mais il est plus présent dans les classes populaires que n'était le Parti Socialiste dans les dernières élections, dans les derniers scrutins. Et il n'est pas absent de la France périphérique, il n'est pas absent de la France rurale. Il y avait un très bon papier de Frédéric Gilly dans Le Monde il y a quelques jours qui montrait ça, qui montrait qu'effectivement Marine Le Pen, elle a un profil extrêmement typé, géographiquement, sociologiquement. Ce n'est pas tellement le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un candidat de relative concorde, en réalité, quand on regarde son profil sociologique. Et je voudrais mettre l'accent aussi sur le fait que s'il y a un échec des macroniens dans cette campagne, c'est de ne pas avoir su valoriser certains aspects de leur programme, en particulier en matière écologique. Je n'ai pas le temps de le développer, mais tout de même 15 milliards d'euros d'investissement dans les énergies renouvelables, dans la transition énergétique, une reconnaissance totale de l'axe qui a été celui de la loi de transition énergétique. Je pense que effectivement la planification écologique de Mélenchon était plus ambitieuse, mais en réalité, elle ne respectait pas, je crois, les procédures de transition vers un avenir meilleur. Et c'est quand même là que se trouve souvent la première difficulté.
Lionel Melzinsou.
Alors, on reporte une partie de l'anxiété qu'on a peut-être un tout petit peu moins sur le résultat du second tour, on le reporte sur le résultat des législatives. Enfin, il ne pourra pas gouverner, ils sont en cohabitation le 19 juin au matin. Oui. Ou alors là aussi, c'est encore assez simple. Il s'agit de créer une force centrale, il s'agit d'avoir un accord de deuxième tour législative. Précisément parce que le danger Front National va être important, donc il faut un accord entre quelque chose dont on voit très bien que ça va être une grande partie du Parti Socialiste, et notamment les élus socialistes qui vont bien entrer en accord avec En Marche pour le deuxième tour. Je ne sais pas s'ils seront emmenés par des Hollandais ou par Valls, mais c'est clairement le gros de l'appareil du parti, le gros des fédérations et des élus parlementaires du Parti Socialiste. On voit très bien que tout cela va faire un bloc social-démocrate qui aura un accord de second tour avec les candidats nouveau d'En Marche, on voit très bien que des candidats centristes auront le même type d'accord, qu'ils viennent avec M. Borloo de l'UDI, qu'ils viennent du modem historique, canal historique, directement avec M. Béroux, qui à ce jour n'a plus de députés, mais qui a quand même une assise assez forte. Quand on regarde la composition de l'électorat d'Emmanuel Macron, il semble qu'il ait un petit peu plus de voix de gauche dans ce qui a fait son résultat au premier tour, presque équilibré en fait par des voix centristes et de droite sociale modérée, et puis 17% des 100% de macronistes se définissent comme ni de droite ni de gauche. Tout ça, ça fait les éléments d'une vraie force centrale. Il faut juste des accords mécaniques assez simples que le nouveau Premier ministre doit trouver, d'accord de second tour avec ces socialistes progressistes et ces centristes, ces chrétiens sociaux, ces démocrates chrétiens. Tout ça, ce sont des forces qui ont eu l'habitude, avant la bipolarisation, avant 1981, de collaborer. Tout ça, c'est le rêve de 2 Français sur 3 de Valéry Giscard d'Estaing. Tout ça, c'est une tradition politique française qui n'a pas prospéré dans les 30 dernières années, mais qui se reconstitue assez aisément. Et cette force centrale, elle est évidemment de nature à créer une majorité. Alors cette majorité sera une coalition, je ne sais pas quelle sera sa robustesse, mais en dehors de l'argument d'Emmanuel Macron depuis un an, depuis 2 ans, la dynamique de la Ve République, c'est que les Français qui auront voté très significativement pour le président de la République lui donneront les moyens de gouverner dans les urnes. Il y a simplement le fait qu'on voit très très bien les contours de cette coalition.
Nicole Nézotto.
Oui, un tout petit mot sur les législatives. Je crois qu'Emmanuel Macron est aussi c'est un personnage de roman. On a l'impression de voir Rastignac arrivant à Paris en disant à nous deux la France.
Rastignac, mais, il était devenu roi.
Oui, mais il a aussi beaucoup, beaucoup de chance. Ça, on n'a pas le temps de l'expliquer, mais il a eu une chance extraordinaire, en plus de son courage, de sa force, de sa détermination. Une chance extraordinaire, notamment dans les primaires et dans les affaires de M. Fillon. Et aux législatives, il a également beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que la règle des non-cumuls va s'appliquer. Beaucoup de gens, dont des députés socialistes, ont dit qu'ils ne se représentaient pas parce qu'ils préfèrent leur mandat local à un mandat national. Et donc, ça ouvre la voie pour des investitures de candidats d'En Marche. Et donc, ça diminue le champ de bataille entre les socialistes, les Verts et les candidats d'En Marche. Et donc, ça lui laisse espérer, effectivement, une certaine majorité. Cela dit, moi, je ne crois absolument pas au scénario de la majorité absolue, ni même relative. Donc, je crois qu'on va rentrer dans une France peut-être de cohabitation, mais en tout cas certainement de coalition permanente.
Nicolas Baffrez.
C'est vrai que la spécificité de ce scrutin, là encore, c'est que c'est la première fois que les deux finalistes de l'élection présidentielle n'ont pas de majorité parlementaire, vraisemblablement, derrière. Donc, en tout cas, pas de majorité absolue. Et la nécessité, donc, d'en construire une du côté de Madame Le Pen, c'est vrai qu'elle peut, si on projette les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, elle peut prétendre à avoir jusqu'à 100 députés. Ça peut faire un socle d'opposition, ça fera jamais une majorité. Donc on ne voit pas très bien, d'ailleurs, comment elle pourrait appliquer son programme. Pour Emmanuel Macron, dont on a dit qu'il a effectivement les meilleures chances d'accéder à l'Élysée, c'est vrai qu'on il aura la nécessité de construire une coalition. Donc pour lui, l'enjeu, après avoir cassé la gauche, ça va être d'essayer de casser la droite ou ce qu'il en reste dans la foulée de l'élection présidentielle. Et le choix du Premier ministre, pour ça, peut être un levier extrêmement utile. Et ensuite, favoriser, c'est très important, par le non-cumul des mandats, qui joue pour le PS, mais qui joue aussi pour les Républicains, où le choix elle-même, beaucoup d'élus importants et bien ancrés, préfèrent garder la mairie que d'aller prendre le risque de se présenter comme député. Donc, il est vrai que là encore, on va avoir un renouvellement très important, à la fois par la désintégration du système classique et aussi par les règles du non-cumul. Mais il faut arriver à transformer ça en une majorité, et une majorité stable, parce que si on doit trouver des majorités texte après texte, là, ce sera dans une ambiance qui va quand même être de 4e République avec une 3e force et les extrêmes des deux côtés. Ce sera très compliqué d'arriver à faire bouger le pays.
Thierry Pêche.
Quelques commentaires sur la perspective des législatives. Premièrement, les législatives dans la foulée d'une présidentielle, c'est beaucoup une élection sur sigle. les histoires de les députés enracinés qui ont un enracinement local. Oui, enfin, en 2012, on en a vu arriver plein que les gens ne connaissaient pas parce qu'il y avait marqué PS dessus. Ils ont voté pour donner une majorité au président. Donc ça, cette dynamique-là, dans la cinquième, elle existe. On va tester la cinquième. Est-ce qu'elle marche encore? Voilà. C'est pas tout à fait évident, mais cette dynamique-là existe. Deuxièmement, il y a effectivement 235 députés de droite et de gauche qui ne vont pas se représenter parce qu'ils préfèrent un mandat local, et ils préfèrent le mandat local souvent parce que le mandat local est plus long et qu'il leur assure une plus grande sécurité personnelle dans la carrière. Très bien. Donc effectivement, ça crée de l'espace et c'est plutôt favorable aux forces naissantes, émergentes.
Pardon, vous pouvez ajouter aussi que le mandat national, malheureusement, a souvent moins de prestige que le mandat local dont vous venez de parler.
Eh bien, c'est un grand tort.
Situation. Oui. La situation a du tort, dit raison.
Troisième commentaire. Il y a effectivement dans la droite républicaine française des tas de gens qui n'ont pas de problème avec le programme d'Emmanuel Macron. Faut arrêter de se raconter des histoires. Les pudeurs de gazelle, si j'ose dire, des parlementaires de droite aujourd'hui qui disent non merci Monsieur Macron, pas maintenant, n'ont aucun problème de fond avec le programme. Il démentira s'il nous écoute. Je suis sûr qu'un Jean-Pierre Raffarin n'a aucun problème avec le programme d'Emmanuel Macron. Je pense qu'une Valérie Pécresse n'en a pas beaucoup non plus. Donc les accords ne devraient pas être si difficiles à trouver sur ce front-là. Sur la gauche, je pense qu'ils ne seront pas difficiles non plus pour les raisons qu'a dites Lionel. Maintenant, attention, parce qu'il y a un scénario noir dans l'histoire. Un Front National qui fait 100 députés, une droite républicaine qui en fait quand même pas mal. Y a ceux qui iront passer un accord avec Emmanuel Macron peut-être, mais il y a tous ceux qui ne l'auront pas fait, la droite dite forte, et là, il y a une autre coalition possible, éventuellement. Et par ailleurs, il y a un troisième et dernier scénario, c'est qu'il n'y ait pas de majorité stable, et qu'on doive effectivement négocier texte après texte. Or, je rappelle que le 49-3, c'est une fois par session parlementaire, désormais. Donc on ne peut plus gouverner comme l'a fait Michel Rocard en 88. Néanmoins, je pense que ces deux derniers scénarios, qui sont les scénarios les plus difficiles, à la fois pour nos institutions et pour le gouvernement du pays, ne sont pas, à mes yeux en tout cas, les plus probables.
On n'a pas évoqué ce que pouvait donner le succès de Jean-Luc Mélenchon en termes de législatif, parce qu'évidemment, il semble bien que son comportement rende difficile la constitution autour de lui, autour de la France insoumise, d'un parti qui me paraît pourtant bien nécessaire, parce que tous ces gens qui sont chez Marine Le Pen ou qui sont dans l'abstention parce que ils ont personnellement souffert ou indirectement souffert de l'arrogance de cette nouvelle bourgeoisie et en même temps de l'incapacité d'être représentés, ces gens-là auraient pu trouver chez Mélenchon une expression plus positive que celle que moins régressive que celle qu'ils ont trouvée chez Marine Le Pen. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être capable de constituer ce parti-là autour du succès? Ça ne paraît pas être le cas aujourd'hui, mais d'une certaine manière, je crois que c'est souhaitable. L'heure a sonné de notre dernière séquence. La séquence des brèves, je l'ouvrirai brièvement en recommandant la lecture d'un article du Monde. J'en donnerai les références, c'est un article apparu la semaine dernière, j'en donnerai les références sur le site. C'est une interview de Laurence Lessig, qui est professeur à Harvard et qui réfléchit à la fois à l'Internet et à la démocratie, et qui est sur le thème de la rénovation de la représentativité démocratique. J'ajoute aussi, sous la forme d'un clin d'œil, cette phrase que j'ai extraite de cette interview. L'histoire des médias nous a appris que la mesure d'audience corrompt les médias dont l'audience est mesurée. Nicole Diesoto.
Oui, alors moi, une brève littéraire. Je recommande vivement le roman de Gaël Faye qui s'appelle Petit Pays et qui est paru chez Grasset. Alors c'est un roman connu et déjà très reconnu puisque Gaël Faye a eu pour cet ouvrage le prix Goncourt des lycéens et bien d'autres prix à l'automne dernier. Moi j'ai donc des retards de lecture mais je suis très heureuse de l'avoir lu et de vous le recommander. C'est un roman absolument formidable parce qu'il mélange deux registres d'émotions très différents. D'abord il y a le registre du roman d'enfance, l'espèce d'émerveillement de l'enfance, les copains, le soleil, la musique, puisqu'il a passé son enfance entre le Burundi et le Rwanda. Donc c'est une ligne de lecture absolument éblouissante et heureuse. Et puis le deuxième registre d'émotion, c'est celui de l'émotion terrifiante, puisqu'il raconte quand même le génocide au Rwanda dans les années 93-94. Et donc, c'est un livre formidable, très pudique et très émouvant.
Lionel Zinsou.
Oui, alors peut-être une lecture d'économiste, enfin de vulgarisation économique au bon sens du terme, de Patrick Artus et Marie-Paul Virard, qui écrit toujours avec Patrick Artus. Donc Patrick Artus est un de nos meilleurs économistes, et un grand professeur d'économie aussi. Euro, par ici la sortie. Alors, bien que ce soit un livre publié chez Fayard, il y a une certaine inélégance du titre, donc les gens pourraient ne pas s'arrêter à ce livre, mais ça permet de faire... entre les deux tours, juste avant d'aller voter, dans une lecture extrêmement simple, extrêmement didactique, un point sur le fait que oui, l'euro a beaucoup de faiblesses, oui, l'euro peut être une des raisons de la croissance faible de l'Europe, mais il y a aussi des effets protecteurs des économies européennes, des effets de facilitation de la création d'un marché, d'un grand marché européen, et il est, au fond, perfectible. On sait maintenant exactement où sont les faiblesses de la gouvernance technique de l'euro. Simplement, sa disparition signifierait un accroissement de dette, un accroissement des taux d'intérêt très spectaculaire. Donc ça permet en quelques dizaines de pages de faire un point. Il y a bien des défauts, mais c'est perfectible. Et il y aurait un coût énorme à s'en passer. L'euro par ici la sortie.
Thierry Cartus. Thierry Pêche.
Eh bien, puisque je sens qu'il faut que vous vous détendiez, je vais vous recommander une bande dessinée. Une bande dessinée qui s'appelle Désintégration, qui est signée de Mathieu Angotier et Robin Recht, journal d'un conseiller à Matignon. Alors, vous me voyez venir. Mathieu Angotier était conseiller de Jean-Marc Ayrault. Il a été chargé du plan pauvreté. Il avait d'ailleurs l'estime du regretté François Chérec à ce titre. Et il a été responsable aussi du plan intégration qui a été raté, qui n'a pas vu le jour. Et c'est l'histoire au quotidien diurne et nocturne, parce que il faut tout de même rendre hommage à ces gens qui vivent dans les cabinets, qui dorment peu, qui travaillent pour la République, pour des salaires qui sont pas immenses, et qui en plus sont la cible de la vindicte de leurs concitoyens, parce que ce sont des technocrates. Eh bien, vous découvrirez la vie quotidienne d'un de ces conseillers qui est animé de vraies valeurs, qui veut œuvrer pour les pauvres et pour ceux qui ont du mal à s'intégrer. Désintégration, Mathieu Angotier, Robin Recht, c'est aux éditions Delcourt.
Une forme de suite à Désintégration. Je voulais rappeler le livre de Christophe Guilluy sur la France périphérique, qui éclaire quand même extrêmement bien le premier tour du scrutin présidentiel 2017. Et puisque il y a eu aussi un éclairage sur une petite ville qui s'appelle Sablé-sur-Sarthe, il se trouve que Pierre Péan, pendant son enfance, avait des grands-parents à Sablé-sur-Sarthe. Et il a eu l'idée d'aller enquêter sur cette ville pour savoir ce qui s'était passé pendant l'occupation. C'est passionnant.
Je vous remercie. J'en profite pour vous dire que si vous avez l'occasion, allez voir l'interpellation du Premier ministre hongrois Orban par Guy Verhofstadt au Parlement européen. C'est un bon moment d'éloquence et de juste éloquence. Vous avez rendez-vous maintenant avec Alain Crugère qui reçoit Adrien Goetz, qu'on ne présente pas. Enfin, si, on le présente, il est historien de l'art. Quand il dit on ne présente pas, c'est une façon en général d'oublier de dire ce qui doit être dit. Et donc, Adrien Goetz et Alain Crugère évoqueront les représentation des banquets mythologiques dans la villa Kérylos, reconstitution, comme on sait, d'une villa de la Grèce antique, bâtie au XXe siècle à Beaulieu-sur-Mer. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Nicolas Depas-Graff. Vous êtes attendus la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit public.